Bien, bonjour à tous, à vous qui êtes ici et puis peut-être un certain nombre d'autres qui sont un peu plus loin. Voilà, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et je reviens un peu en arrière, je reviens au 29 septembre 2019. J'étais ici à la même place et j'ai donné une prédication qui s'appuyait sur quelques textes du livre des Actes. Paul et son équipe étaient dans leur deuxième voyage missionnaire et cela se passait aux alentours de l'année 51. Je relis simplement pour resituer le propos un court passage que j'avais lu à l'époque dans Actes 16, versets 6 à 10. Ils, c'est-à-dire l'équipe missionnaire de Paul, c'est Luc qui parle, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie, parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Parvenus près de la Mysie, ils se proposaient d'aller en Bithynie, mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Ils traversèrent donc la Mysie et descendirent au port de Troas. Et là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait: Viens en Macédoine et secours-nous. À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, car nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à y prêcher la bonne nouvelle. D'accord, ça y est, voilà. Très bien, merci. Alors, une série de contretemps amena donc Paul et son équipe à se rendre en Europe et ils arrivèrent dans la ville de Philippe. Et tout cela est raconté dans ce que je viens de lire de manière à la fois précise et sobre. On a l'impression que cette série de contretemps n'a pas duré très longtemps et le récit, je le trouve carré, simple et précis. La prédication était intitulée Conduit par Dieu. Il ne faudrait pas croire que Dieu procède toujours de cette manière précise et sobre, on pourrait dire simple et carré, conduisant ainsi ses enfants par une série de sens interdits et de sens obligatoires. Parfois, Dieu conduit ses enfants par des moyens plus complexes, exigeant du temps, de la maturation, et c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui, toujours en attachant nos pas à ceux de Paul, mais un peu plus loin dans le livre des Actes. Pedro. Et pour la prédication du jour, nous gardons le même titre, Conduit par l'Esprit de Dieu, mais nous ajoutons un sous-titre, J'en appelle à l'empereur. Oui, merci Pedro. Et nous allons maintenant nous retrouver aux alentours de l'an 57, 6 ans plus tard, après le récit que je viens de lire. Et les chapitres 21 à 28 du livre des Actes recouvrent une période de 5 ans environ. 8 chapitres qui recouvrent 5 années. 5 années de vie, c'est beaucoup. Aussi, vous ne serez pas étonnés si de mon côté je raconte beaucoup, sans regarder les textes à la loupe, mais plutôt en les regardant vue d'avion. Alors, nous allons planter le décor en résumant à très grands traits, les chapitres 21 à 26 du livre des Actes, le tout en moins de 5 minutes. Alors, en 57, Paul rentre de son troisième voyage de missionnaire. Il vient d'écrire, ou il est sur le point d'écrire, j'ai pas bien su déterminer, aux Romains. Et il leur dit que depuis plusieurs années, il désire aller chez eux et qu'il espère que ça va se réaliser lorsqu'il ira en Espagne. Alors, c'est le premier jalon que nous laisse le texte. Il espère aller voir les Romains. Et Paul ajoute que pour l'instant, il se rend à Jérusalem. À Jérusalem, des Juifs venus d'Asie l'accuse de donner un enseignement contraire à la loi et l'accuse aussi d'avoir introduit des non-juifs dans le temple. Alors, le peuple s'agite, cherche à tuer Paul, mais le commandant de la garde romaine, un certain Claude Lysias, le fait conduire à l'abri dans une forteresse, tandis que le peuple continue à demander la mort de Paul. Paul est confronté au peuple, puis au chef des prêtres, au Sanhédrin, et il doit être chaque fois ramené dans la forteresse pour être protégé de la foule. Une nuit, le Seigneur apparaît à Paul et lui dit qu'il doit être son témoin à Rome. « Tu as été mon témoin à Jérusalem, il faut que tu sois aussi mon témoin à Rome. » C'est le deuxième jalon que nous laisse le texte. Et le lendemain, plus de 40 juifs s'engagent à tuer Paul, mais le commandant, averti du complot, décide de faire conduire Paul auprès du gouverneur Félix qui se trouve à Césarée. J'ouvre une parenthèse. Césarée, c'est la capitale romaine de la Palestine. Césarée, ça signifie qu'il appartient à César. C'est une ville située au nord-ouest de Jérusalem, au bord de la mer Méditerranée, et à Césarée résidait l'autorité romaine. Alors, 5 jours plus tard, Paul s'explique donc devant le gouverneur Félix, en présence du grand prêtre Ananias et des anciens qui sont venus de Jérusalem pour l'accuser. Félix entend à nouveau quelques jours plus tard Paul en présence de sa femme, Drusille, mais rien ne se passe. Paul reste en prison pendant 2 ans. Vous avez bien entendu, pendant 2 ans. Quand, à un certain moment, Félix est remplacé par un certain Porcius Festus. Alors, comme ça se passe chaque fois que change le gouvernement, on se dit, ça va peut-être bouger. Ben oui, ça bouge. Une dizaine de jours plus tard, Festus entend effectivement Paul à Césarée. Les Juifs venus de Jérusalem renouvellent leurs accusations contre Paul, et lui, eh bien, il affirme à nouveau n'avoir commis aucune faute. Pour plaire aux Juifs, Festus propose à Paul qu'il soit jugé à Jérusalem. Paul refuse. Et, coup de théâtre, il demande à être entendu par l'empereur à Rome et demande à être jugé à Rome. J'en appelle à l'empereur. C'est le troisième jalon que nous laisse le texte. Quelques jours plus tard, Agrippa, le roi de Palestine, et sa sœur Bérénice arrivent à Césarée, mais ils invitent Paul à présenter à nouveau sa défense. Et quand le roi Agrippa met fin à la session, les personnalités présentes affirment que Paul n'a rien fait qui mérite ni la mort, ni la prison. Et Agrippa ajoute même que Paul aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à l'empereur. Pedro, quand tu veux. Alors, arrêtons-nous un instant avant de partir pour Rome avec Paul. En 57, donc, je résume un peu, au retour de son troisième voyage missionnaire, Paul s'adresse aux Romains, déclare qu'il espère aller les voir et passer à Rome en allant en Espagne. 2 ans plus tard, il part à Rome dans des conditions qui ne sont pas du tout celles qu'il avait imaginées. Entre-temps, le Seigneur lui a paru et lui a dit « Courage, tu as été mon témoin à Jérusalem, il faut que tu le sois aussi à Rome. » Et c'est un homme reconnu innocent par les autorités romaines locales qui se met quand même en route pour Rome après de multiples auditions par diverses personnalités romaines de haut rang. Et tout ça déclenché apparemment par une simple parole: j'en appelle à l'empereur. Toutes les pièces du puzzle sont en place et ce jour-là, les aventures de Paul ne font que commencer. Pedro, quand tu veux. Paul embarque pour Rome avec quelques autres prisonniers confiés à la garde de Julius, un officier romain. Luc est du voyage. Ils font escale, vous pouvez suivre sur la diapo quand elle s'affichera, à Sidon. Ils longent l'île de Chypre pour arriver à Myra en Lycie. Là, on change de bateau. Le vent ne permet plus d'avancer. Alors, à bâbord toutes, on se dirige sur la Crète et on arrive sur la côte sud de la Crète à Beauport. On est à la fin du mois de septembre. La navigation devient dangereuse. Paul conseille d'hiverner à Beauport. Et la majorité décide de continuer pour atteindre la pointe ouest de la crête où se trouve un port appelé Phénix. Ils n'y arriveront jamais. Bientôt, le vent du sud se lève et l'équipage perd le contrôle du bateau qui dérive pendant 14 jours. Ouvrons une parenthèse. Nous sommes, il y a quelques années, Laurence et moi, allés en Crète. Et nous sommes passés sur un point haut qui domine justement Beauport. C'était en été. Et nous étions venus visiter un monastère sur le parking duquel des dizaines de voitures stationnaient. Et ce jour-là, le vent du sud soufflait et chahutait les voitures au point que les alarmes se déclenchaient aux quatre coins du parking. L'heure Aquilon est un vent fort, même en été, et à plus forte raison à la mauvaise saison. Revenons à Paul. Le jour suivant, le 15e jour donc depuis le départ de Beauport, le bateau vient s'échouer sur un banc de sable situé près d'une île. Les 276 personnes qui arrivent sur l'île sont saines et sauves. Paul vient d'arriver à Malte. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur ce chapitre 27 qui raconte ce naufrage. On voit Paul qui prend la direction effective du bateau, au-dessus de l'officier romain, au-dessus de l'équipage, mais ce n'est pas notre sujet. Pour notre sujet, je ne retiens qu'un seul événement qui se déroule dans la nuit située entre le 14e et le 15e jour. Je lis dans Actes 27 et au chapitre 23. On sent qu'on approche d'une île, Malte en l'occurrence. Et Paul dit à l'équipage, dans le but de les rassurer, en effet, cette nuit, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est présenté devant moi et m'a dit, Paul, ne crains rien, il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu t'accorde la vie sauve pour tous tes compagnons de voyage. Paul reçoit ici la confirmation qu'il doit comparaître devant l'empereur et que Dieu lui accorde en conséquence la vie sauve pour tous ses compagnons, pour lui-même et tous ses compagnons. C'est le quatrième jalon que nous laisse le texte. Alors à Malte, l'accueil est bienveillant. Tout l'équipage hiverne à Malte. Paul guérit tous les malades de l'île et notamment le père du premier personnage de l'île, un certain Publius. Pour notre sujet, je ne retiens qu'un seul événement qui se déroule au début du séjour à Malte. Tout le monde est autour d'un grand feu. Il pleut, il fait froid. Paul, mordu par une vipère, la secoue dans le feu. Tous s'attendent à le voir enfler, à le voir tomber raide mort. Et pourtant, rien de fâcheux ne lui arrive. Dieu l'a gardé au cours de cet incident qui aurait pu être grave pour lui. C'est le cinquième jalon que nous laisse le texte. Et au bout de 3 mois, l'équipage et les prisonniers repartent pour Rome dans un troisième bateau. Ils arrivent à Rome au printemps 60, après une demi-année de voyage depuis leur départ de Césarée. Une demi-année. Paul est enfin à Rome, nous sommes au printemps 60. Et pendant 3 ans, de 57 à 60, Dieu a progressivement révélé son plan à Paul dans le but qu'il soit son témoin à Rome. On connaissait les 3 premiers jalons de cette révélation. On en connaît maintenant 5. Pedro, si tu veux afficher la diapo suivante. Premier jalon, j'écris, c'est Paul qui parle aux Romains, que j'ai le désir d'aller les voir. Deuxième jalon, une révélation du Seigneur. Tu as été mon témoin à Jérusalem, il faut que tu sois mon témoin à Rome. Troisième jalon, parole anodine. J'en appelle à l'empereur, mais qui a contribué à orienter tous les mois qui ont suivi. Sur le bateau, entre le 14e et le 15e jour, un ange, ne crains rien, il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et puis cet événement-là, où Paul aurait pu laisser la vie, sur l'île de Malte, mordu par la vipère. C'est le cinquième jalon. Quand tu veux, Pedro. Il faut que tu sois mon témoin aussi à Rome. Alors, le livre des Actes, à la fin de son dernier chapitre, nous décrit un peu la vie de Paul à Rome. Demeure pour nous la question, mais de quelle manière a-t-il été témoin du Seigneur à Rome? Alors, Paul est installé dans un appartement personnel. Il est toutefois sous la garde d'un soldat. 3 jours après son arrivée, il reçoit les chefs des Juifs. Ces derniers lui fixent un autre rendez-vous. Et un jour durant, Paul leur expose sa doctrine, leur annonce le règne de Dieu, cherche à les convaincre au sujet de Jésus. Et ce début de séjour donne une idée de ce que sera la vie de Paul pendant toute sa résidence à Rome. Ce mode de vie dure 2 années entières. Vous avez bien entendu, encore 2 années supplémentaires, de l'an 60 à l'an 62. Période pendant laquelle Paul reçoit tous ceux qui viennent le voir, enseignant, dit le texte, avec une pleine assurance et sans aucun empêchement ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout ce que dit le livre des Actes sur la vie de Paul à Rome sur ces 2 ans. Et pour en savoir un peu plus, il faut aller rechercher dans les lettres de Paul. C'est pendant cette période que Paul a écrit ce qu'il est convenu d'appeler les lettres de la captivité, c'est-à-dire la lettre aux Colossiens, la lettre à Philémon, la lettre aux Éphésiens, la lettre aux Philippiens. Et par ces lettres, Paul poursuit inlassablement son ministère d'édification des croyants, son ministère de direction et de conseil des églises, son ministère d'explicitation de la doctrine chrétienne. Alors, ces lettres nous apprennent que Paul était assisté à Rome par plusieurs de ses amis et frères, Timothée, Marc, Luc et un certain nombre d'autres qui sont moins connus. Et ses frères et amis étaient à la fois ses auxiliaires à Rome et aussi ses messagers aux 4 coins de l'Empire romain, portant des lettres en particulier. Et Paul poursuit aussi par ailleurs son témoignage personnel à Rome. Ainsi, Onésime, l'esclave qui est en fuite, dont il est question dans la lettre à Philémon, était l'un des fruits du travail personnel de Paul à Rome. Et par ailleurs, Philippiens 1 nous apprend que dans tout le prétoire, en gros dans tout le tribunal de Rome et partout ailleurs, nul n'ignorait que c'est pour Christ que Paul était dans les liens. Alors voilà l'essentiel de ce que l'on sait avec cette certitude sur la vie de Paul comme témoin du Seigneur à Rome. Pedro, quand tu veux. Je reviens maintenant sur le titre « Conduit par Dieu ». Nous avons maintenant au moins 2 exemples de la manière dont Dieu conduit ceux qui veulent le servir. Acte 16, dont j'ai lu un petit morceau au tout début de la prédication, nous donne l'exemple d'un moment de vie conduit par les circonstances que Dieu crée, fermant et ouvrant des portes. Les disciples doivent certes être attentifs aux circonstances, doivent exercer leur discernement. Cela étant dit, la situation des disciples est alors, somme toute, assez confortable. Elle revient pour l'essentiel à se laisser guider. Le long passage du jour, c'est pas moi qui l'ai fait long, il est long dans le livre des Actes. Le long passage du jour nous décrit avec beaucoup de détails une situation plus complexe, s'étalant sur une période longue, se mesurant en années. Cette situation combine plusieurs aspects. J'ai essayé de le montrer en posant 5 jalons successifs. Et tout ça me donne l'impression d'une collaboration entre Dieu et ses disciples. Chacun pour sa part, évidemment. Paul a fait le projet de se rendre à Rome. Dieu a approuvé son projet par une vision donnée à Jérusalem, confirmée au moment du naufrage. Paul, contre toute logique, en a appelé à César, ce qui a déclenché le voyage à Rome. Dieu a protégé Paul tout au long de son voyage, à la fois des Juifs
à Jérusalem, rappelez-vous, ils voulaient le mettre à mort, mais aussi lors du naufrage, mais aussi à Malte autour du feu. Et dans cette situation complexe et longue, tout se passe comme si les projets de Dieu et ceux des disciples ne faisaient progressivement qu'un au fil des mois et des années. Et cette situation me semble particulièrement satisfaisante, mais il ne faudrait pas perdre de vue qu'elle a un coût pour les disciples. Paul a échappé à la mort à Jérusalem. Il a fait naufrage dans une tempête de 2 semaines. Il a été mordu par une vipère, etc., etc. Bref, sa situation ne fut pas très confortable, même s'il a inscrit ses pas dans les pas du Seigneur. Alors pour terminer, est-il nécessaire de signaler qu'il doit y avoir bien d'autres façons d'être conduit par Dieu, autres que les 2 situations qu'on a rencontré dans le livre des Actes. Je vous propose de prier, puis je reprendrai le fil pendant une minute et demie pour autre chose. Seigneur, ta parole dit à plusieurs reprises que tu conduis tes enfants par ton esprit. Merci pour cette assurance que nous pouvons serrer dans notre cœur. Merci parce que nous ne sommes pas ballottés de gauche et de droite, errant sans but et sans objectif. Nous te prions pour que tu nous fasses la grâce d'être à ton écoute, désireux de te servir, là et comme tu le souhaites. Nous te prions pour que nous soyons attentifs aux signaux que tu nous envoies de diverses manières. Nous te prions pour que nous puissions mettre en ligne notre volonté avec la tienne. Seigneur, nous savons aussi que te servir a souvent un coût pour nous. Mais nous nous confions en toi parce que nous savons que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Merci Seigneur pour ta volonté dans nos vies, volonté parfaite. Amen. En une minute, je termine par une réflexion qui n'est pas complètement dans le sujet et que je mets donc à part. Le livre des Actes, si vous l'avez relu récemment, se termine brutalement. Notre curiosité, en tout cas la mienne, serait satisfaite si nous savions ce qui se passa ensuite au-delà des 62, au-delà de la fin du livre des Actes. Alors nous en sommes malheureusement réduits à des hypothèses, certaines assez vraisemblables, puis d'autres moins fiables. Vraisemblablement, Paul fut libéré de cette première captivité à Rome aux alentours de l'année 62. Certains pensent qu'il a été relaxé par les Romains, sans même être jugé, parce que ses accusateurs juifs ne s'étaient pas présentés à Rome dans le délai de 18 mois qu'autorisait la loi romaine pour, par les modernes, pour déposer plainte. Alors Paul reprit alors ses voyages missionnaires. Il écrivit ses dernières lettres pastorales à Timothée, à Tite, et le tout donc entre 62 et 66 ou 67. Chaque fois, j'ouvre une parenthèse, que je cite des dates, je me suis référé au nouveau dictionnaire biblique parce que c'est un peu complexe parfois, cette datation. Donc c'est sous ce couvert que je parle. Et pendant cette période, Paul fut à nouveau emprisonné. On peut le lire dans 2 Timothée en particulier, dans ses dernières lettres pastorales. Alors unanimement, ce second emprisonnement eut lieu aussi à Rome. Et alors très clairement, les conditions de détention furent plus dures que lors du premier emprisonnement. Ça, on le comprend quand on lit les lettres pastorales. Alors, l'explication est simple, hein. Il faut savoir que les Romains ont bien changé de point de vue vis-à-vis du christianisme. En 64, une vaste persécution des Romains est déclenchée par l'empereur Néron. On a tous plus ou moins entendu parler de l'épisode de l'incendie de Rome, qui a été attribué à tort aux chrétiens et qui marqua le début d'une persécution féroce des chrétiens. Et les historiens situent la mort en martyr de Paul vers 67, emporté par le flot de cette persécution. Petite question demeure, Paul est-il allé en Espagne comme il le souhaitait ? Alors, on ne peut pas l'affirmer avec certitude. On ne peut pas non plus affirmer avec certitude le contraire, à ma connaissance, donc la question reste ouverte. Amen.